Speaks.
Ouais, j'ai fait du coup des études d'anglais, mais j'étais pas très satisfaite en fait de rester que sur des questions de linguistique, même si elle me passionnait aussi. Enfin, apprendre le vieil haut anglais, c'était cool. Mais voilà, j'ai voulu prendre un sujet de maîtrise à l'époque qui était plus politique. Et donc m'intéresser à comment se structurait l'extrême droite en Grande-Bretagne contemporaine, donc de l'époque de mes études, donc les années 90. Et notamment, ce qui m'étonnait, c'était la base de ma recherche, en fait, c'était le fait qu'il y ait une extrême droite de rue ou dans les stades très structurée et brutale et visible. Et dans les partis politiques, en revanche, beaucoup d'atténuation en fait, de l'extrême droite, une sorte de diffusion des idées, de porosité, en fait, avec le parti conservateur. Mais des partis d'extrême droite affirmés en tant que tels, très minoritaires. Et du coup, c'était le jeu entre les deux qui m'intéressait d'étudier à l'époque. Et suite à quoi j'ai complètement arrêté mes études, parce que j'en avais marre du milieu. Enfin voilà, j'ai passé ma maîtrise, ça s'est très bien passé, mais après j'en ai vraiment eu ras-le-bol en fait du milieu universitaire, du milieu officiel de la recherche, et surtout des manières de penser, de construire la pensée, de la rédiger, de tout cadrer. Et du coup j'ai voulu vraiment... partir dans le monde, quoi, explorer,
okay.
Découvrir les choses autrement, apprendre d'autres manières apprendre à réfléchir d'une autre façon. Puisqu'avant de faire cette maîtrise, j'avais une formation très classique de prépa littéraire en France. Et donc, ça m'a... En fait, pour moi, en fait, c'est devenu, à ce moment-là de mon développement intellectuel et politique, on va dire, c'est devenu un énorme handicap d'avoir fait cette formation-là, parce qu'elle me contraignait énormément dans mes manières de réfléchir. Et je voulais vraiment sortir de ce cadre-là. Et voilà, du coup j'ai voyagé, j'ai fait d'autres choses. Et quand je suis revenue en France, 2 ans après, j'ai voyagé pas loin, hein, j'ai voyagé en Europe. Quand je suis revenue en France, assez rapidement j'ai rencontré... une radio associative qui s'appelle Fréquence Paris Pluriel, qui est une radio associative du nord de Paris, dans un quartier pauvre. Et j'ai commencé à participer à une émission une émission antifasciste et plus généralement de critique sociale. C'est-à-dire on restait pas uniquement sur le thème de l'extrême droite, mais on partait. On allait dans les manifs, on faisait des reportages. Et il y avait ce côté-là, vraiment, de terrain dans les manifs, dans les luttes. Et on invitait aussi des chercheurs, des chercheuses en plateau, ou des militantes, militants. Voilà, on faisait... C'est ça que j'aimais bien dans cette émission, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle « Les oreilles loin du front », en référence au Front National à l'époque. Et c'est là que je me suis formée, vraiment. Un petit peu plus tard... J'ai voulu explorer des manières de faire de la radio un peu plus expérimentale ou créative. En fait, j'étais un peu déçue de l'absence de prise en compte, enfin de la réflexion sur les formats à l'intérieur de beaucoup d'émissions de Radio Asso en France, et notamment celle à laquelle je participais, où il n'y avait pas forcément énormément d'espace pour expérimenter des nouvelles formes. Et donc j'ai commencé ma propre émission, l'Intempestive, pour notamment faire du docu sonore et travailler vraiment les sujets qui, moi, m'obsédaient un petit peu. En fait, travailler à partir de ces obsessions-là, qui me semblent des moteurs intéressants de recherche, en fait. Comprendre ce qui nous obsède dans tel ou tel sujet et creuser jusqu'au bout, quoi. Et à cette époque-là... Aussi, je voyais apparaître des articles de plus en plus souvent, enfin de plus en plus souvent en tout cas, j'y prêtais davantage attention, j'ai compris après coup que c'était des marronniers, donc qui revenaient très régulièrement, sur l'utilisation par les États-Unis notamment du son comme arme, Donc, d'une part, l'utilisation de la musique comme moyen de torture dans les prisons noires de la CIA, que ce soit à Guantanamo ou bien dans des prisons vraiment non officielles dans d'autres pays que les États-Unis, mais dirigées par les États-Unis, en fait. Enfin, les prisons, en tout cas, l'étaient. Et simultanément aussi, donc là, je parle, j'ai commencé la radio, ça devait être au milieu des années 2000, je pense. Et la mise au point du LRAD, Long Range Acoustic Device, qui est le principal dispositif utilisé aujourd'hui, dispositif sonore utilisé en maintien de l'ordre aujourd'hui, lui, il a été mis au point en 2005. Donc c'est vraiment assez concomitant. Voilà, c'était dans le cadre de la veille que je faisais déjà, de la veille anti-autoritaire, anti-fasciste, que je faisais déjà, en fait, en tant que militante. Ça m'a intéressé, quoi, de creuser sur cette question-là. Et plus généralement, il y avait aussi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait non seulement ce côté nouveaux outils utilisés en manif, nouveaux outils de maintien de l'ordre, donc faire de la veille en fait sur les outils de répression, et également donner éventuellement des outils ou des moyens de résistance par rapport à ça. Et par ailleurs, il y avait le développement de dispositifs moins forts, comme le Mosquito, des petits boîtiers en fait, qui diffusent des fréquences sonores très aiguës, qui sont désagréables en fait, d'où le nom en fait moustique, parce que c'est fait pour être pénible, sans être aussi violent, aussi brutal que le LRAD. Donc voilà, j'ai commencé à bosser comme ça en fait, sur la question du son comme arme. J'ai fait de la recherche, et puis au bout d'un moment j'ai voulu formaliser cette recherche à travers une série d'articles. Je me positionnais davantage d'ailleurs comme journaliste indépendante, on va dire, à l'époque. Ce que aujourd'hui je revendique plus du tout en fait. Je me suis vraiment après redéfinie plus comme chercheuse indépendante, ou comme artiste chercheuse aussi. Et donc j'ai proposé en fait une série d'articles sur cette question de l'utilisation comme arme à plusieurs journaux, qu'ils ont refusé. Et sauf un, qui était vraiment... voilà, ça a été le début d'un compagnonnage assez long, qui était Article 11. Un site web indépendant, et qui était beaucoup, en fait, ça que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait à la fois des articles sur la littérature, des critiques littéraires qui étaient chouettes, et des articles très engagés, quoi, politiquement, socialement. Et le fait qu'un même site arrive à faire les deux, je trouvais ça chouette, parce que pour moi, on ne peut pas faire la révolution sans littérature et sans art. Ni l'inverse. On ne peut pas faire de littérature ou d'art vraiment qui tienne la route sans révolution non plus. Et donc voilà, j'ai commencé à publier les articles sur le son comme arme là-dedans, puis ensuite, voilà, ça a été publié en livre et ça a continué.
peut-être cette pratique de l'écriture et de la radio, et comment peut-être les deux s'alimentent et qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter, et aussi comment vous abordez au début cet objet du son, que ce soit à la radio ou même dans les textes. En fait, vous l'abordez d'une façon très vraiment sur le côté militaire, et ça vous intéresse, ou alors en fait vous y appliquez aussi, je sais pas, peut-être des idées que vous avez sur le son, ou peut-être des envies personnelles sur ce que ça pourrait être, ou comment peut-être comment, je sais pas, dans ce cadre-là, lutter contre ces armes-là, en fait. Est-ce que y a aussi une volonté un peu pratique derrière de...
Oui, il y a cette volonté pratique. Enfin, pour moi, enfin, les différents bouquins que j'ai écrits, c'est pas des livres de recettes, ça c'est sûr. C'est pas des livres où je dis aux gens qu'est-ce qu'il faut penser, sur quoi et tout, mais j'essaye de transmettre vraiment des outils, quoi. De dire, bah, voilà en fait ce que moi j'ai pu récupérer de mon côté, comme information et comme documentation, et voilà comment je l'analyse. Et ben voilà, je vous remets ça entre les mains, et pour qu'on en... Voilà, moi c'est dans une visée vraiment de d'émancipation que j'ai fait ce travail-là, en laissant toujours une place aux lectrices sans cesse dans mes bouquins. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pensé l'écriture, quoi. C'est marrant d'ailleurs, parce qu'il y a un auteur à succès, dont je ne vais pas dire le nom, que j'avais croisé à un moment, qui s'intéressait aux questions sonores, et qui m'avait dit « Ah ouais, mais toi, tes bouquins, tu prends pas parti, on sait pas ce que tu penses, voilà, moi, quand j'écris, ben je m'engage et tout, j'y vais, j'ai le courage et tout ça. » J'ai regardé, j'ai dit « Écoute, j'ai pas l'impression de faire trop mystère du fait que je suis quand même assez engagée politiquement, que j'ai des opinions qui penchent plutôt du côté de l'anarchisme. » Et donc voilà, après, pour moi, les lecteurs et les lectrices, c'est pas des petits soldats, des petites soldates à enrégimenter, quoi. C'est des personnes qui sont comme moi, qui, voilà, certaines n'ont pas accès à l'écriture ou à la publication, certaines si. Mais je ne vais pas les traiter comme des personnes, comme des réceptacles, en fait, de mon savoir, mais vraiment plus en termes de, bah, d'échange, de mise... Enfin, moi, je me trouve à une intersection où bah, je suis en capacité de publier, et du coup, bah, je suis à une place particulière à ce niveau-là, mais qui est dépendante de plein d'autres places. Et si moi, je peux publier, c'est parce que... Bah, je suis dans une constellation en fait qui m'a permis de personnes et de pratiques qui m'ont permis de faire ça, et je dois des choses en fait à toutes les personnes qui m'ont permis de faire ça, et je me situe pas en position surplombante, quoi. Voilà. Je suis au milieu de plein d'autres choses, quoi. Et alors, pour revenir à la question sur le rapport entre le son et l'écriture, c'est vrai que dès le départ, pour moi, il y avait vraiment une parenté très forte entre les deux, que j'ai pas vraiment réussi à formaliser, que je pense toujours pas d'ailleurs réussi à formaliser. Quand j'étais jeune, j'avais une pratique d'écriture déjà très très établie, et je m'envisageais comme écrivaine, enfin j'envisageais l'avenir en tout cas en tant qu'écrivaine. Ça, c'était une pratique qui était déjà très forte, et un plaisir pour moi d'écrire depuis vraiment très jeune. Et la découverte de la radio, l'accès à la radio, l'apprentissage de ça, ça a permis d'éveiller les oreilles, quoi. Ce qui était hyper précieux, parce que c'était une façon de me décentrer totalement par rapport à la façon dont je me situais dans le monde auparavant, par rapport à des pratiques quotidiennes, par rapport aux outils que je pouvais utiliser, avec une approche dans la radio à la fois beaucoup plus technique, beaucoup plus ancrée en fait dans une histoire des technologies, et également une pratique qui est immédiatement beaucoup plus collective. Et ça a été très précieux dans ma formation politique, en fait. Je me suis formée politiquement à travers la radio associative, quoi, clairement, et les médias libres. Et j'ai continué à avoir donc cette double pratique de à la fois littéraire, d'écriture, où j'écrivais aussi à l'époque dans un journal indépendant littéraire, Et de commencer à développer la réflexion sur les formats dans le son, qu'est-ce qu'on peut faire avec du son, qu'est-ce que ça signifie écrire avec du son. C'est pas pareil qu'écrire avec des mots. Et aussi en termes de diffusion, quoi, c'est pas du tout pareil. Quand on va diffuser quelque chose à la radio, il y a quelque chose qui se joue en fait dans le rapport entre les personnes qui parlent au micro ou les personnes qui proposent des sons à diffuser et les personnes qui sont à l'autre bout du poste radio ou d'un ordinateur. On est inséré les deux dans au sein d'une chaîne technologique, technique, sociale, politique, et qu'on va faire jouer différemment, en fait, pour moi, quand on est dans un rapport de auteurice à lectrice. Il y a quelque chose de, pour moi, de moins formel dans le cas de l'écriture, dans le rapport qui se constitue, en fait, dans le réseau qui se constitue, que dans le domaine sonore. Et là, depuis quelques années, je fais aussi beaucoup de jardinage. Et en fait, l'écriture, comme le son, enfin comme l'écoute plutôt, comme le jardinage, pour moi, c'est vraiment, il y a une parenté en fait, entre ces trois activités. Je vois vraiment un continuum entre les trois. Peut-être c'est lié à la lenteur que ces trois activités, elles permettent ou qu'elles imposent. Et dans la manière de se positionner parmi les autres plutôt que face aux autres, justement parmi les autres. Il y a peut-être un rapport plus frontal en fait entre quand on est dans l'écriture, un rapport vraiment plus frontal et quelque chose de dans la radio de qui est plus de l'ordre du réseau. De dissémination de flux d'ondes qui nous situe en réseau. Et dans le jardinage, c'est encore autre chose, quoi. C'est du réseau, mais qui va vers d'autres formes de vie, quoi, qui sont les vies végétales. Parce que je considère que j'agis en tant que jardinière comme un peu comme une alliée en fait, des végétaux, en tout cas j'essaye de l'être. Pour nous resituer encore différemment, quoi, rechanger notre positionnement. Quand j'ai commencé, enfin, quand le premier bouquin, je ne me situais pas du tout à l'intérieur d'un champ universitaire de recherche sur le son parce que je ne les connaissais pas. J'ai vraiment abordé ça un peu en mode franc-tireuse, on va dire. J'y suis allée, quoi, puis je me suis dit, ah tiens, c'est marrant qu'il n'y ait pas encore de bouquin sur cette question-là, sur les armes acoustiques, ça, c'est intéressant. Et j'y suis allée vraiment, ouais, plus en mode une forme de journalisme indépendant, quoi, comme il y a des reporters indépendants dans les manifs, ou voilà, en me disant, bon, bah, il faut traiter un sujet qui n'est pas traité, et je vais y aller. Et après, dans la rédaction du bouquin, je me souviens m'être. Je l'ai construit en fonction de l'évolution de la gamme de fréquences. Parce que ça va des sons graves jusqu'au son aigu. Et j'ai mis le silence en plein milieu du bouquin. Le silence, d'ailleurs, étant la forme la plus brutale de torture qui est exercée par les militaires. Et pourquoi par forme, pourquoi le côté, la gamme de fréquences, en fait, c'est parce que ça m'amusait, quoi. Et je me disais vraiment, je veux pas militer en mode monacal, quoi. Il faut faire un truc sérieux, nanana. Je voulais m'amuser aussi, parce que je pense que la joie qu'on a à écrire, à lutter, à transmettre des choses, elle est fondamentale, quoi. À la fois pour être. Précise dans sa manière d'écrire, de se situer. Et aussi parce que l'idée de ces bouquins comme des sons que je peux produire toute seule ou avec d'autres, je me suis rendu compte que, enfin, au fil du temps, je l'ai formalisé plus récemment, mais que c'est vraiment l'idée de transmettre une énergie. C'est pas transmettre un savoir au sens de. On va s'adresser à l'autre comme vraiment un pur réceptacle de nous, un savoir qu'on aurait acquis, qu'on aurait capitalisé, mais dans l'idée de, voilà quoi, je me situe à la conjonction de plein d'énergie que moi-même, en fait, je vais pouvoir retransmettre sous une autre forme et renvoyer dans le réseau à plein d'autres personnes, quoi, qui vont elles-mêmes en faire plein d'autres choses et ça va évoluer. Ensuite, le fait de publier ce premier bouquin, Le son comme arme, ça m'a donné accès, en fait, au milieu universitaire que j'avais fui quelques années plus tôt. En gros, il m'a réinvité, mais plus en anglais, du coup, mais enfin en civilisation britannique, mais du côté recherche sur le son. Et j'étais, dans ces années-là, vraiment en gros questionnement sur ma légitimité à faire. Je construisais ma légitimité en tant que chercheuse. Et du coup, j'étais contente de ces occasions de dialoguer davantage avec les milieux universitaires. Et ça m'a ouvert aussi beaucoup à des discussions nouvelles, à des références nouvelles. Ça a été vraiment précieux, en fait, de pouvoir dialoguer avec d'autres personnes qui ne travaillaient pas précisément sur ce sujet, puisqu'il n'était pas traité à l'époque, mais qui avaient plein d'autres billes, en fait, à me transmettre. Avant ça, je ne connaissais pas, en fait, les sound studies, donc ce champ de recherche des études autour du son, autour de l'écoute, qui était pourtant déjà constitué depuis plus de 10 ans en Grande-Bretagne et aux États-Unis et au Canada. Et donc voilà, ça m'a permis de découvrir déjà que ma recherche, enfin la recherche que j'avais faite pour le son comme arme, elle s'inscrivait dans différents champs universitaires, mais que c'était, que clairement j'aurais pas pu la faire depuis l'intérieur de l'université parce que c'était directement interdisciplinaire dès le départ. Ça touchait à trop de choses différentes, en fait, pour que formellement j'ai pu la faire dans un cadre universitaire spécifique. Et après, je suis restée très attachée justement à cette indépendance, à la fois pour pouvoir mobiliser tous les champs de recherche ou en dehors de la recherche, en fait, qui m'intéressaient, qui me semblaient pertinents, et aussi dans les formes. Et là, en fait, c'est sur le bouquin sur Burris Meyer, Contrôle, où je me suis dit, lui, en fait, j'ai envie de le traiter vraiment comme une sorte de un peu en mode biographique, mais biographique décalé, de prendre ce personnage qui pour moi était une métaphore vraiment parfaite d'une certaine évolution de la manière de concevoir le son, conceptuellement je veux dire, et son possible usage social et politique au fil du XXe siècle. C'était une trajectoire vraiment parfaite, quoi. Une trajectoire parfaite à partir d'un gars qui n'était jamais retenu dans les dictionnaires des célébrités, quoi. C'est ça qui, en plus, qui m'intéressait beaucoup. Parce que pour moi, c'est des gens comme lui qui ont façonné le capitalisme au fil du temps et qui continuent d'ailleurs à le façonner. Et pas uniquement les grands noms, quoi. C'est des personnes, des enthousiastes comme lui. Voilà. Et tout en me laissant aussi confronté à Burris Meyer quand il était un jeune professeur qui bossait beaucoup dans le milieu du théâtre. Il avait des enthousiasmes pour le son et ce qui était possible de faire avec le son. Que moi, enfin, qui était semblable presque au mien, en fait. Dans, à l'époque aussi, bah, j'étais très militante de la création sonore, au sens où, avec des amis d'autres radios associatives, on encourageait nos radios à faire davantage de création sonore, c'est-à-dire à y ouvrir vraiment des créneaux dédiés, à donner plus de temps aux équipes pour mieux travailler leur sujet, à faire des formations en interne, à nous-mêmes nous former, quoi, à écouter des sons, voilà, à connaître l'histoire de la création sonore et tout. Et donc, je partageais certains enthousiasmes de Burris Meyer au départ, et ça m'a vachement questionnée, en fait. Et tous les outils que j'utilisais, je pouvais retracer ça dans sa généalogie à lui aussi. Et ça m'a beaucoup interrogée, en fait, sur des choses que je prenais pour acquises et que je questionnais pas auparavant, sur où est-ce qu'on se situe dans un système technologique et conceptuel, et qu'est-ce qu'il fallait remettre en question vraiment pour changer des choses, changer des pratiques, changer des manières de faire et tout. Et donc là, pareil, quoi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce bouquin. Je me suis amusée, en fait, dans l'écriture. Autour de Burris Meyer et toujours dans cette voilà, j'ai accentué en fait ce côté la liberté dans le format en fait que je voulais avoir, et là mon éditeur a été il m'a vraiment laissé tranquille par rapport à ça, quoi, enfin accepter en fait que je choisisse un format qui était un peu inhabituel pour un essai par exemple. Et ensuite, j'ai continué en fait, à faire ces trucs-là, mais pour moi, la recherche formelle, que ce soit dans les créations sonores ou dans l'écriture, il fallait toujours chercher en fait, à remettre en question les formats précédents, que ce soit les miens ou d'autres formats, quoi, pour vraiment être dans une démarche de recherche, dans une démarche de création, dans une démarche où on se remet en question. Et on arrive à donner des nouveaux outils, à ouvrir des nouvelles pistes, quoi. Ou à remettre en question des pistes, des chemins tout tracés qu'on suivait sans se rendre compte qu'on était en train de suivre des chemins tout tracés, précisément.
Je pensais justement à ces statuts à ce moment où vous retrouvez un peu le milieu universitaire, et en fait ce statut de chercheuse indépendante que vous pouvez avoir, cette position là est-ce que vous vous sentez aussi que elle vous permet peut-être de faire des choses ou d'aller vers des sujets plus que si vous ne l'aviez pas, et en fait voilà, est-ce qu'il y a un peu une confrontation aussi en fait de ce fait là de venir à la base d'une pratique, d'un intérêt presque personnel qui s'est construit comme ça avec la recherche. Quelle confrontation il y a pu avoir dans la participation à des événements plus formels et universitaires, et comment voilà, quelle confrontation il peut y avoir avec des discours.
Ouais, j'ai pas vraiment j'ai ressenti plutôt un bon accueil des milieux de la recherche. Après, la question, elle a beaucoup été aussi une question de. Enfin, la bataille, elle s'est portée non pas sur affirmer ma légitimité en tant qu'indépendante, aussi en tant que femme. En tant qu'anarchiste, etc., etc., me sentir légitime, en fait, à porter ces discours-là, et les discours que je tenais, dans la forme où je les tenais, quoi. Ce qui a été... le milieu universitaire, finalement, est plutôt friand, en fait, de trajectoires qui peuvent être atypiques et vont les intégrer, mais... à distance, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais, par exemple, obtenu un poste. J'ai eu, à un moment donné, j'ai presque failli pouvoir avoir pouvoir intégrer un laboratoire, ce qui m'aurait donné un peu plus de stabilité, parce que c'est la recherche indépendante, ça veut dire qu'on n'est pas payé concrètement, quoi. Donc c'est compliqué, quoi. Enfin, de vivre pendant des années avec un demi-SMIC. Voilà, c'est pas hyper simple. Hein. Mais voilà, pour moi, c'était l'indépendance à la fois dans mes sujets et dans la manière de les traiter. Elle reposait vraiment là-dessus, quoi. Sur le fait de ne pas être salarié d'une institution. J'ai refusé aussi des possibles financements de ma recherche par des... que ce soit des collectivités ou des entreprises qui avaient un intérêt, en fait, dans ce que je travaillais, comme le design sonore, par exemple, en disant, ah oui, on cherche les gens qui l'abordent de façon critique. Mais moi, je ne suis pas là pour vous aider à améliorer votre machine. C'est pas ma position, c'est pas mon rôle. Et en fait, oui, j'en avais besoin d'études, mais en fait, ça aurait été la fin de ce que je faisais. Donc, il fallait savoir ce qui était... le plus à privilégier pour moi. Mais après, j'ai beaucoup bataillé à l'intérieur du milieu universitaire pour faire admettre que, par exemple, ça vous intéresse, mon travail, ok, mais du coup, il faut me payer, quoi. Vous ne m'invitez pas à vos colloques de la même manière que vous invitez des gens qui sont salariés et qui sont payés pour faire de la recherche, et aussi de plus en plus, d'ailleurs, de l'administration. C'est un autre souci. Mais voilà, si vous trouvez ça important qu'il y ait de la recherche indépendante, vous la prenez en compte aussi au niveau sur l'aspect financier. C'est fondamental, quoi. C'est vraiment fondamental. Parce que sinon, on a l'impression, et de la même façon d'ailleurs dans les milieux culturels, qu'on est juste une petite brique, qu'ils ont besoin de plein de petites briques de précaires qui sont partout, qui font un super taf. Mais on prend une petite brique, on la colle là, on prend une autre petite brique, on la colle là, et finalement... ça change absolument rien, quoi. On peut porter tous les discours qu'on veut, la situation générale, la production même de la recherche, elle reste dans un déséquilibre total, dans une inégalité totale, et on permet juste de fournir à l'université, au milieu culturel institutionnel, des contenus qu'ils ne sont pas capables de produire en interne ou moins. En tout cas, ils ne peuvent pas tous les produire. Et donc, ils reposent sur plein de précaires, en fait, qui vont faire ce taf. Et ça, d'ailleurs, pour moi, était un point de rupture où je suis repartie. Du coup, c'est pour ça que je suis partie dans le jardinage, à un moment, de me dire, j'en ai ras-le-bol de cette hypocrisie des milieux culturels, universitaires... éditoriaux, etc., qui vraiment en fait vivent sur cet état de fait, sans le prendre en compte, sans chercher à le modifier le moins du monde, et donc à me mettre à poursuivre en fait mon boulot, mais d'une manière différente, quoi.
Peut-être pour revenir à ce dont on discutait un peu avant, parce que enfin, tu disais que cette découverte du personnage de Boris Meyer a posé aussi beaucoup de questions personnelles. Et moi, j'ai une question sur le lien que tu mets avec les. Je reste peut-être un peu sur les textes là, mais sur voilà, le son comme arme, comme moyen de contrôle, et puis après le son quotidien et le design sonore. Est-ce que tu mets un fil conducteur entre ces thématiques-là? Et peut-être que justement c'est cette thématique de ton intérêt personnel en fait, et comme ça se construit tes ouvrages, ou est-ce que aussi tu les lis d'une autre façon par leur thématique en fait
Ça m'a vachement questionnée parce que pendant vraiment depuis le moment où j'ai commencé à bosser sur la critique sociale du son, en gros, jusque aujourd'hui toujours, j'ai vraiment deux pieds sur lesquels je marchais. Un pied, c'était la critique de la domination par des usages répressifs ou incitatifs du son. Et là, ça allait. J'englobe là-dedans tous les usages comportementalistes du son, que ce soit l'usage d'alarmes de très forte intensité, jusque la fabrication du croustillant des chips, quoi. Donc là où je perçois qu'il y a un continuum, en tout cas dans la manière de concevoir le son et son rôle social. Et la manière de concevoir aussi et surtout les personnes qui reçoivent ces sons, comme une sorte d'oreille moyenne qu'il faudrait façonner en permanence et qui permettrait d'obtenir des effets anticipables, reproductibles. Voilà. Mon autre pied, c'est la création sonore, quoi. Où là, j'étais vraiment du côté, par contre, de une recherche de l'émancipation par le son. Et j'ai pas vraiment résolu le fait de. Mais pour moi, ça a toujours été essentiel de travailler les deux simultanément. Donc je travaillais sur les armes sonores et en même temps je faisais des documentaires. Donc vraiment de chercher des usages des usages du son qui permettraient une émancipation collective, qui donnerait des outils de résistance et d'invention dans la période qu'on traverse, qui est vraiment extrêmement fascisante, voilà, dans beaucoup de pays, notamment la France. Voilà. Après, un peu plus tard, j'ai remis en question de nouveau ça, parce que j'ai découvert. Notamment à l'occasion d'une commande d'ailleurs de bouquins. On m'a commandé enfin c'est la Philharmonie de Paris qui m'a commandé un livre sur Alexander Graham Bell. Et j'ai été très perturbée par cette proposition. Parce que je suis féministe et on me proposait en gros d'écrire la biographie d'un patriarche, quoi. Et je me suis dit, comment faire, quoi? Comment faire? Est-ce qu'il faut refuser? Ou est-ce que j'arrive à trouver un moyen de faire quelque chose? Et j'ai accepté. Et je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a fait découvrir. Je me suis formée en fait à toute l'histoire de la culture sourde. Parce que Alexander Graham Bell, quand vous vous en parlez à des sourdes et des sourds, des personnes notamment qui signent, donc qui utilisent les langues des signes françaises, enfin françaises ou autres, les langues des signes, c'est un ogre, quoi. C'est un monstre. C'est une figure extrêmement connue et extrêmement détestée. Parce qu'il a été un des fers de lance de la lutte contre les langues des signes au 19e siècle et au début du 20e siècle. Par son influence et par sa conviction, en fait, que. Il y a d'humanité et de salut de l'humanité que dans l'oralisation, que dans le langage oral. Il a fait reculer en fait énormément de progrès dans le domaine de l'enseignement et de l'accès à toutes les fonctions sociales en fait des sourdes et des sourds qui en fait étaient en train de se construire à travers l'enseignement en langue des signes. Voilà. Et j'ai découvert, du coup, enfin, je me suis formée, j'ai découvert, c'est un grand mot, mais je me suis formée, moi, à toute cette culture sourde. Et aussi, je me suis pris de nouveau une grande claque en me disant, bah, pour moi, le son, c'est un... Enfin, je le définis depuis 10 ans comme un outil d'émancipation. Mais pour certaines personnes, c'est un outil d'oppression. Et depuis 10 ans aussi, je le perçois comme quelque chose qui n'est pas assez pris en compte dans la création, par exemple, ou dans l'histoire de l'art. Et pour d'autres personnes, au contraire, c'est un outil dominant. C'est une culture ultra dominante. Et quand on vit en dehors de cette culture, quand on vit sans entendre et sans oraliser, le quotidien est extrêmement compliqué et il faut s'organiser vraiment en dehors de ça. Et il faut construire une communauté en dehors de ça. Et ça a été très formateur de me rendre compte de ça. De re-réfléchir à comment travailler autrement autour de la question du son, de ne pas aller dans une idéalisation du son, mais là j'étais déjà plus trop dans cet état d'esprit parce que toute la branche marketing du design sonore et ou bien du podcast industriel sont dans des discours d'idéalisation autour du son. Il y a plein de discours publicitaires qui maintenant sont devenus extrêmement audibles en fait sur ce que le son va permettre, etc., etc. La remise en question écouter. écouter ce que les personnes sourdes ont à dire, voilà, je ne saurais pas dire autrement. Enfin, moi, l'écoute, ça reste quelque chose qui me définit vraiment intimement. Donc, en tout cas, d'être attentive à ce que les personnes sourdes disent et ce qu'elles. Comment elles manifestent leur rapport, leur situation politique et sociale dans le monde. Voilà, je trouve ça fondamental aujourd'hui, quoi. sur une grande évolution, en fait, ça a été qu'au départ, j'étais très centrée sur le son, vraiment. Et qu'au fur et à mesure, j'ai évolué vers l'écoute. Et que c'est l'écoute qui a fini par beaucoup plus m'intéresser que le son. Et aujourd'hui, dans les pratiques que j'ai toujours, j'anime des ateliers d'écoute ou bien des marches d'écoute critique. Et cette notion d'écoute critique, elle est devenue hyper importante pour moi dans les dernières années. C'est vers ça, en fait, que m'a menée la recherche, en fait, de partir. Pour moi, le son, il y a quelque chose, en fait, de productiviste là-dedans, encore, indécrottablement. Et me défaire de ce productivisme-là. Et aussi faire un petit peu un pas de côté par rapport à ce système technologique à l'intérieur duquel le son va m'inclure. J'ai commencé plus à travailler l'écoute, et notamment l'écoute à oreille nue, sans prothèse auditive, sans casque, sans autre chose, des environnements du quotidien. Et aussi ce qui va vraiment de pair avec, aussi bien dans les ateliers que dans les marches que je propose, c'est la dimension collective de cette écoute. Vraiment de casser à la fois l'idée de vraiment centrer sur le son qu'il faut sans cesse avoir un flux de nouveautés dans les oreilles. Pour moi, en fait, non, l'écoute est là. Enfin, déjà, on n'écoute jamais deux fois la même chose, comme on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, en fait. On peut rester dans un même endroit, il n'y aura absolument jamais le même son. Et même de réécouter un son enregistré à différents moments, on ne va pas réécouter le même son enregistré, en fait. Le contexte d'écoute va être modifié, enfin, il y a plein de choses qui vont être modifiées. Dans tout le contexte d'écoute, qui vont faire que stricto sensu, ça ne peut pas être le même son, quoi. Donc, partir dans cette dimension collective, parler aussi, savoir mettre des mots sur son écoute et les partager avec d'autres, enfin, c'est beaucoup par là que passe l'aspect collectif. Enfin, c'est le fait d'écouter ensemble, parce que quand on marche ensemble en écoutant une rue, dans le cadre d'une marche d'écoute, on a l'air un peu de zombie, quoi. On passe on est remarqué parce que quand on écoute, ça se voit, quoi. Enfin, on est un peu en décalage par rapport à la manière de se comporter sinon habituellement. Et quand on écoute ensemble aussi, ça se perçoit, mais il y a quelque chose qui se joue qui est un petit peu étonnant, en fait, dans le rapport de groupe que ça crée. Et ensuite de se réunir pour en parler, c'est toujours hyper intéressant. Je trouve ça très riche, en fait, ce qui va sortir de discussions sur qu'est-ce que tu as entendu, moi j'ai entendu ça et ça m'a fait penser à ça, etc. Et donc je donne à notamment le travail que je propose dans les marches d'écoute, c'est d'activer différents protocoles d'écoute au fil de la balade en faisant le collectif féministe chilien L'Astesis fait, elles disent qu'elle, c'est elle qui en fait la chanson El Violador Eres Tú, le violeur c'est toi, où elles ont fait toute une performance dans l'espace public qui a été reprise dans pas mal de pays du monde. Et où elles disent qu'elles prennent les thèses féministes et à travers des actions d'éducation populaire, elles les amènent dans la rue. J'essaye de faire ça avec l'écoute. C'est-à-dire, je prends des éléments des sound studies, des bouquins, des éléments d'histoire de l'art sonore, etc. Et j'amène ça dans la rue, en proposant, en fait, des manières d'écouter différentes à différents moments pour les personnes. Enfin, découvrir vraiment qu'on a plein d'outils dans nos oreilles, que c'est pas des oreilles, que même sans casque, c'est des oreilles qui sont industrialisées. Parce qu'elles sont, notre manière d'écouter, elle est construite par l'histoire des technologies. On ne peut pas s'en défaire, on ne peut pas aller rechercher une sorte d'idéal d'oreille animale qui existerait dans l'absolu. Non, nos oreilles, elles sont construites par les cultures dans lesquelles on est né, par les technologies qu'on a pu écouter. Voilà, on a été formé par ça. Et comment jouer avec ça, par contre, commencer à utiliser l'oreille comme un instrument et s'amuser de ça dans le quotidien, quoi. Et donc voilà, je suis vraiment partie sur ces choses-là. Et du coup, la question sur qu'est-ce que je vais écouter, est-ce que je fais une partition entre la création sonore, la musique, etc. J'ai du mal, en fait. Les catégories me semblent hyper abstraites. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi tel format se relèverait stricto sensu de telle catégorie, parce que pour moi, il y a toujours du débordement. Il y a toujours un endroit où ça va riper, ça va partir vers ailleurs. Mmh. Et c'est voilà, ce qui n'empêche pas d'un autre côté que je supporte pas le podcast industriel ou tous les formats ultra dominants, et je supporte encore moins quand je les entends d'ailleurs dans des médias indépendants, comme si c'était en fait un état de l'art, alors que c'est juste un état de domination, quoi. C'est pas ce qu'il faut faire quand on est une vraie professionnelle, c'est juste ce qu'on y ressasse à longueur de temps comme étant le seul format possible. Ce qui est bien sûr faux, quoi. Y a mille et mille formats possibles, et c'est bien en fait de les chambouler sans cesse, de les remettre en question sans cesse, de les repenser en fonction de... Il y a énormément d'impensés racistes, validistes, sexistes, à l'intérieur même des formats qu'on va utiliser en radio ou dans la création. Et comment est-ce qu'on va déconstruire ça? Comment est-ce qu'on est sans cesse capable de se remettre en question et de se redécentrer par rapport à ça, quoi? Et de renouveler nos pratiques en fonction de ce que les autres ont à nous dire, de comment ils et elles entendent tout ça. Donc ma manière, en fait, mais en même temps, on ne peut pas vraiment choisir ce qu'on va écouter ou pas quand on est dans le flux du quotidien. Et ma manière de... pour moi, l'écoute critique, c'est également un outil d'autodéfense, quoi. C'est-à-dire que la musique d'ambiance, ma manière de m'en prémunir, c'est de l'écouter, quoi. Je dis, ok, bon, donc qu'est-ce qu'ils veulent faire ici? Comment c'est organisé? Pourquoi est-ce que c'est organisé comme ça plutôt que de telle autre façon? Quelle efficacité ça a réellement? Quelle efficacité attendue? Toute la production de discours sur le son qui est mise en place à travers la diffusion de musique à tel endroit, à tel moment. De la même façon, les voitures. À un moment donné, il faut réussir à... pour trouver du répit, en fait, dans un environnement urbain qui est ultra dense, écouter les voitures différemment, ça me donne des outils, en fait, juste moi, pour réussir à traverser ce moment-là, quoi. Tout en militant par ailleurs pour des pour le vélo ou la marche, hein. Ça n'empêche pas que je déteste l'industrie automobile, qui pour moi est une des pires industries avec celle de l'armement, naturellement, mais comme lutter contre ça, mais tout en ayant des outils d'autodéfense au quotidien qu'on peut transmettre, voilà. Et après, sur est-ce que j'ai eu des chocs esthétiques, musicaux. Je ne sais pas si je parlerai en termes de choc. Quelque chose qui m'a vraiment beaucoup ouvert les oreilles, c'était une contrainte, mais bon, en fait, c'est une contrainte libératrice qu'on s'est fixée avec mon ami Aude Rabillon, avec qui on fait l'émission Radio Renversée, de ne programmer dans l'émission que En fait, c'est une émission de critique sociale et création sonore, dont on essaye de travailler à faire l'émission, vraiment toujours adapter le format au sujet qu'on veut travailler, et vraiment à tout remettre en question en fonction de ce qu'on récolte, en fait, sur le sujet, en termes de paroles, de création, etc. Et une des choses, en fait, qu'on s'était fixé, c'était que toutes les créations sonores qu'on passe dans l'émission, c'est des créations de femmes, de queer, de personnes handies, de personnes racisées, et vraiment de sortir de, voilà, comme une personne d'un festival de musique expé a pu nous dire, ah ouais, mais en fait, s'il n'y a que des hommes cis blancs qui sont hétéros, qui sont programmés, c'est juste qu'en fait, on trouve, voilà, il y a quasiment pas d'autres, quoi. Ben si, mais en fait, il faut les chercher, quoi. Et là, enfin, ça a été vraiment, c'est un boulot énorme, oui, parce que oui, il faut les chercher. En fait, ces personnes-là sont beaucoup moins audibles, beaucoup moins bien représentées, quoique de mieux en mieux, puisqu'il y a quand même des collectifs qui se sont montés. Et bon, après, on peut connaître les moyens de les sites, en fait, ou les ressources pour trouver ces personnes. Mais là, ça a été vraiment super, en fait, parce que c'est tout à coup, c'est en termes d'écoute, de manière d'employer le son, de rapport aux auditeurs, aux éditrices, c'est d'une immense richesse, quoi. Et là, bah, avant l'émission, on parlait par exemple de Julia Nadia Labed, que j'ai adoré en fait, écouter son travail et commencer à échanger avec elle sur son travail. C'était hyper riche, mais il y en a vraiment plein d'autres en fait. C'est, voilà. Donc je dirais pas une seule personne, mais voilà, toutes ces manières différentes de créer.
Voilà Chantal, alors, on est le 1er mai et il est 6 heures. Je suis sortie un peu tard parce que les voitures commencent à circuler de plus en plus tôt. J'ai remarqué ça avant il y a une année. À 6 heures, il n'y avait pas encore toute cette circulation. Après, c'est peut-être dû... Alors, il y a du vent, zut. Je n'ai pas pensé à ça. Il y a du vent. De toute façon, je n'ai pas le matériel pour, donc j'ai une petite bonnette. Mais je m'arrange avec d'autres accessoires. Par exemple, j'avais enregistré un train qui passait du côté de Nîmes et j'avais mis mon micro, il y avait un peu de vent, dans un globe de verre. Et c'était assez bien, intéressant. C'était même très bien. Avec les grenouilles aussi, il y avait l'intérieur, l'extérieur, et voilà. Bon, alors, je promène ma petite chienne, je fais mon café, donc je vais essayer de me mettre à un endroit précis où il y a... Tu entends? Voilà, il y a pas mal de pigeons. C'est pas le matériel non plus pour enregistrer le bruissement d'ailes. Alors, là j'ai un micro stéréo. Voilà, j'ai posé mon café. Ouais. On entend plus les voitures avec ce micro. Mais voilà, en tout cas. Bon, j'ai réglé le micro autrement parce que je l'avais mal réglé. Pff. Je vais terminer mon café, j'ai repéré un tuyau de quelque chose pour mettre le micro. Dia, elle comprend pas trop ce que je fais. Dia, va te promener. Allez, fais ta promenade. Elle est remarquable, cette petite chienne. Bon, le plastique. Le plastique, c'est le petit sachet indispensable pour la promenade des chiens. Je peux pas me rapprocher, faut que je fasse ça délicatement. On va s'approcher délicatement. On va faire le tour. Ah oui, il y a le tuyau là que je dois prendre. Alors. Ah, c'est bien. Ouais. Donc je vais poser mon mug. Dia, viens là, viens, fais le tour. Dia, viens. Ouais. Voilà. Maintenant, Dia, tu vas pas bouger. Je vais poser ça. C'est un peu mouillé. Oh là là. J'ai apporté un mouchoir, mais pas. Ben, qu'est-ce que je peux faire? Plastique, non. Je vais le mettre autour comme ça. La bonnette. Voilà. T'entends la différence? Voilà. Voilà. Il est 6h12, on est sur la place anciennement, la place Moscou. Maintenant, c'est la place Marie Johnson, c'était une femme politique. Dia, viens par là, viens.
Je voulais aborder la question de la résistance dans le son et de... Question un peu large là-dessus sur comment elle pourrait passer, mais c'est vrai qu'en fait, ça me faisait aussi penser ce que vous disiez à toute cette approche comportementale, mais que ce soit dans le... En fait, c'est vraiment transversal, parce que ce soit dans le son comme arme, contrôle, dans le design sonore, mais même dans les manières de vendre la musique, où on va... Enfin, toute cette chose de penser des playlists pour des moments, comme si, en fait, l'écoute allait automatiquement créer une situation... Qui irait de soi. Voilà, pour vous, la résistance, elle passe en essayant de lutter contre cette espèce de répétition et qu'on essaye d'imposer. Ou alors, est-ce qu'elle passe par aussi une production de discours sur la musique qui irait à contre-courant, ou alors, justement, c'est essayer de développer son écoute ou un peu... Toutes ces choses, ouais, à la fois.
C'est... Ouais, je pense en fait, que c'est un peu tout ça.
Ma question est longue, mais... Non, mais parce qu'en fait, en préparant l'émission, je relisais le son comme arme, et c'est vrai que j'étais fasciné par toute la production de discours. Et ce qui est assez drôle avec le livre, c'est que c'est quand même beaucoup de temps des personnes qui travaillent pour des institutions militaires qui produisent des discours sur des objets qui seraient censés avoir des pouvoirs, mais en fait, dans les faits, ils sont des effets presque nuls. Il n'y a pas grand-chose qui marche. Et moi, c'est vrai que ça me fascine, parce qu'il y a souvent, et même dans la musique, voilà, il y a souvent une profusion de discours sur le son, et en fait, voilà, comment vous la comment vous les recevez, ces discours-là, et peut-être comment parce qu'il y a toute une part de fantasme aussi parfois sur ce que pourrait faire le son, et peut-être qu'est-ce que vous dites, bon bah voilà, là ok, ça, avec le son il y a peut-être ça qui peut passer, mais bon, ça c'est complètement c'est un peu abstrait, illusoire, quoi.
Bah, pour moi, après, c'est effectivement, le son comme arme ou contrôle, ce sont des bouquins en fait sur la critique de discours performatif sur le son, en fait. Pour moi, l'efficacité de la musique d'ambiance, c'est pas la musique d'ambiance, c'est le discours qui est produit sur la musique d'ambiance. En fait, c'est là qu'elle est terriblement efficace. Et à partir de ce discours, en fait, il y a tout un marché, un énorme marché, hein, qui est créé, quoi. C'est ça qui est quand même un peu dingue, quoi. Et donc, oui, enfin, dans le son commun, par exemple, je m'en amuse, quoi. Enfin, pour moi, c'est juste grotesque, en réalité. Et montrer ce grotesque, bah, c'est une manière de lutter contre une emprise, une domination qui est réelle, mais qu'on peut casser, en fait. C'est, enfin, pour moi, c'est vraiment comme c'est le roi est nu, quoi. Et c'est aussi, je peux le rattacher plus globalement à ce que Isabelle Stengers et Philippe Pignard avaient écrit dans La sorcellerie capitaliste, quoi. Le capitalisme, c'est la production d'un récit qui fonctionne tant qu'il est accepté comme tel, quoi. Et à partir de... Enfin, qui est accepté. Bon, après, il arrive à... Les personnes qui sont en position de pouvoir du capitalisme l'imposent de force, le font accepter manu militari aux autres. Mais de casser, en fait, les fondements de ce discours, de refuser... de considérer comme un discours, c'est un discours qui est pas sérieux scientifiquement, qui est pas sérieux socialement, qui est grotesque à plein de niveaux, grotesque et terrible, quoi, et cauchemardesque en même temps. Et à travers le prisme du son, c'est aussi un petit peu ça, en fait, qui apparaît, en fait, plus généralement. Enfin, le son, là, c'est une métaphore d'un capitalisme plus général, d'un fonctionnement capitaliste plus général, qui est un outil d'oppression et d'asservissement et de même de, enfin, de, comment dire, de hiérarchisation des vies, qui est effroyable et extrêmement efficace dans sa manière de fonctionner, parce qu'en fait, il fait que sans cesse ressasser tout un discours, comme un haut-parleur avec de la musique d'ambiance va sans cesse ressasser tout un petit discours qui est à son petit niveau microscopique, hein, qui est absolument ridicule et qui est petit, en fait, à cet endroit-là. Mais c'est le même type de fonctionnement, en fait. Et donc oui, résister à ça, ben, ça se fait, pour moi, ça se fait nécessairement de mille manières. Nécessairement parce que déjà, on a des... Enfin, c'est aborder, en fait, les choses de façon radicalement anti-validiste, anti-normative. Vraiment partir, non pas d'une moyenne. En fait, l'idée même de moyenne, pour moi, c'est capitaliste, quoi. C'est l'idée même de norme. C'est déjà de l'oppression. De partir, au contraire, de la multiplicité des corps et des cultures, de la multiplicité des histoires, et de construire du commun à partir de ça. Ça ne veut pas dire... aller dans l'éclatement, dans l'individualisme extrême, bien au contraire. Ça veut dire, à partir de cette multiplicité-là, comment est-ce qu'on crée du commun ensemble ? Et les musiques expérimentales, enfin, certaines pratiques dans les musiques expérimentales, sont des lieux pour faire ça. Les radios associatives, à un niveau tout à fait différent, quoi. Un atelier de radio associative dans une cité va reproduire du commun, quoi, à partir de différents outils. Va reproduire aussi de la capacité d'agir, de la capacité de prendre la parole, de s'affirmer, de se sentir légitime à tel endroit, à tel moment. Voilà. Et ça passe aussi par des outils de... l'écoute critique, pour moi, c'est à la fois le fait de savoir, en fait, de comprendre que notre écoute, elle est située historiquement, socialement, politiquement. Et du coup, de de l'utiliser en connaissant ça, de se nourrir en fait de réflexions autour des écoutes, de ne pas penser qu'on a la science infuse parce qu'on a une paire d'oreilles qu'on peut utiliser pour écouter le monde. En fait, que tout ça, en fait, chaque instant du quotidien, chaque son qu'on va écouter, on peut l'envisager de mille manières différentes. Et comment, pareil, encore une fois, on va recréer du collectif à partir de cet outil-là. Et ça passe par la production de discours aussi, mais de discours qui ne sont pas des discours qui vont dans le sens du capitalisme, par la production de des discours qui ne sont pas là non plus pour moi pour transmettre un message. En fait, la question de la transmission du message, pour moi, elle est encore capitaliste aussi, quoi. C'est-à-dire, on part d'une personne qui produit et on arrive à une personne qui reçoit passivement, bah, casser en fait ce truc-là, de dire on va être là pour créer d'autres liens entre nous, pour créer une autre manière de concevoir en fait ce moment qu'on partage ensemble, et pour qu'il y ait, en fait, moi, ce que j'espère, en tout cas, c'est une visée que j'ai quand j'écris ou quand je propose des balades, c'est juste que les gens fassent un petit pas de côté. Et que ce petit pas de côté, en fait, ça suffit après pour aller explorer un chemin entièrement différent que je ne peux pas connaître. Mais que juste, en fait, il y a eu cette possibilité à un moment donné de dire « Ah ouais, ok, j'étais partie sur cette ligne droite-là, mais en réalité, je me déplace juste de quelques centimètres et là, tout à coup, bah, le paysage, il change et j'ai plein de nouvelles choses à découvrir, quoi. »
Ouais, en fait, cette pratique un peu de résistance, ça se passe aussi par le fait d'un peu d'essayer de faire déborder en permanence les pratiques et les habitudes.
De les hybrider, de vraiment d'écouter tout ce qui se passe autour. Et puis vraiment de écouter aussi beaucoup. Aujourd'hui, je milite beaucoup dans l'autodéfense sanitaire et dans des luttes anti-validistes. Et pareil, moi, j'ai pas de soucis de santé particuliers. Et c'est un énorme décentrement, en fait, de prendre en compte, en fait, la manière de vivre le quotidien, de penser le quotidien de personnes qui sont malades chroniques, qui sont handicapées, qui ont des niveaux de risque par rapport au Covid, qui sont absolument pas les mêmes que d'autres. Tout ça permet, en fait, de se positionner entièrement différemment dans la ville, dans nos actions au quotidien, dans notre manière de nous organiser. C'est tous les champs de la vie quotidienne qui sont impactés, quoi.
querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando, con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra, arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito, alrededor de su cuna, que caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como una fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura. La explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda
pura. Justement, j'avais une question sur cette approche un peu anti-validiste vis-à-vis du son et de l'écoute. Comment vous l'incorporez, vous avez pu l'incorporer, je pense aussi à la question du silence qui peut être, parce que vous parliez parfois du son comme moyen oppressif, est-ce que c'est quelque chose que vous... Enfin voilà, cette prise en compte de ces éléments-là, comment elle peut se traduire dans une pratique d'écoute
Une pratique d'écoute totalement anti-validiste, c'est... Ça, pour moi, ça reste en réflexion. En fait, je suis toujours en train d'essayer de me former à comment faire les choses. C'est loin d'être parfait. Ce qu'on a mis en place avec Audra Billon sur deux de nos émissions, c'est une traduction en fait des émissions en langue des signes française. Et donc, on s'est associé à des interprètes professionnels et aussi à un collectif. De sourdes et sourds qui s'appellent, enfin de sourdes, parce que c'est que des meufs, hein, qui s'appellent Persiste et Signe. Et en fait, l'émission, les deux émissions, au départ, en fait, le truc, c'est qu'on se dit, bon, on va les faire traduire. En réalité, c'est des nouvelles émissions, quoi. Parce que on a vraiment coproduit les émissions avec elles, après coup, parce qu'elles disent, oui, bah, ça, en fait, tel truc, ça vraiment, ça rime à rien de le traduire, quoi. Et à la place, on vous propose une performance signée. On dit, c'est super, en fait. Et ça donne, en fait, un objet qui est beaucoup plus intéressant que juste un truc vraiment de traduction où on voudrait s'accrocher à notre objet initial. Et non, en fait, on va faire quelque chose d'autre avec elle, quoi. Donc ça, par exemple, c'est un des outils. Dans les autres outils qu'on n'a pas encore mis en place, en tout cas pour Radio Renversée, il y a la retranscription aussi. Le fait de retranscrire à l'écrit ce qui est dit à l'oral. Ça donne accès à certaines personnes sourdes, pas à d'autres. Donc voilà, c'est un outil. En fait, c'est plus ce qu'on réfléchissait en fait, au sein d'un autre collectif dont je fais partie, qui s'appelle Lara, qui est un collectif d'autodéfense sanitaire, c'est que l'accessibilité, elle va être favorisée par la multiplication d'outils. Parce qu'il n'y a pas un seul type de handicap, il n'y a pas un seul type d'obstacle en fait que les personnes vont rencontrer, il y en a plein en fait. Et même que ce soit à l'intérieur de la communauté sourde, à l'intérieur de la communauté des personnes handicapées, des malades crocs, etc., il va y avoir des besoins extrêmement différents selon les personnes. Et du coup, multiplier les outils, être à l'écoute des choses qui posent le plus problème déjà et les régler. Et ensuite... essayer de créer des nouveaux outils en fonction de ce que ces personnes nous disent. Et puis avoir des... il y a un collectif, par exemple, comme les Dévalideuses, qui qui est un collectif anti-féministe, qui, elles ont fait toute une charte sur l'accessibilité, comment accessibiliser un événement. Et il y a plein de choses. Et ça va de avoir un accès pour les personnes à mobilité réduite, ça, mais aussi jusqu'à avoir une salle de repos pour les personnes qui ont besoin à un moment donné de faire un break sans stimuli extérieur. Ça passe par le fait, en autodéfense sanitaire, d'avoir des masques FFP2. Ça passe par plein de choses extrêmement différentes. Et que, en fait, c'est pas en tant que valide qu'on va les trouver miraculeusement. Quoi. C'est vraiment en étant à l'écoute et en essayant au fur et à mesure de mettre en place les choses. Quoi. Avant l'émission, quand on discutait de façon plus informelle, on parlait de Mary Thompson, notamment, qui est une chercheuse britannique, qui a travaillé sur l'oralité blanche. Alors, oralité écrit A-U-R-A-L-I-T-E, ce qui veut dire la façon d'écouter. C'est à l'oralité dans ce sens-là, c'est à la fois. C'est vraiment d'ailleurs un très mauvais terme, en fait, parce qu'il y a une telle. Enfin, le fait que ce soit le même terme que l'oralité avec un O, c'est hyper problématique, mais bon, voilà, il faut trouver un autre mot. C'est la façon d'entendre, quoi. La façon enfin, à la fois, quand un son va être émis, on va entendre ce contenu, mais c'est à la fois le contenu qu'on entend et la manière dont on va l'entendre, quoi. Ça inclut ça. Et donc, Mary Thompson, elle avait fait, il y a quelques années, un essai sur la manière d'écouter blanche, qui se perçoit comme dans tous les autres domaines, comme transparente, neutre, universelle, surplombante, savante, alors qu'elle est éminemment située et qu'elle est éminemment problématique à plein de niveaux. Et elle donne un exemple extrêmement parlant, par exemple d'une compilation de musique pour aéroport, qui a été faite par des artistes essentiellement des hommes cis blancs. Et alors là, c'était qui a été validée par l'aéroport de Brisbane. C'était la conception d'un voyage, comme d'une poésie, nanani nanana, la liberté, l'exploration, bon. Et il y a un artiste nigérian qui s'appelle Chinua Amobi, qui lui a fait une contre-compilation qui s'appelle Musique d'aéroport pour personnes noires. Et là, dans sa compilation à lui, ben, en fait, il donne à entendre. Pour lui, en fait, il dit ben, l'aéroport, pour une personne racisée, c'est loin d'être un lieu de poésie et de liberté et de passage, de circulation, en fait, de libre circulation. Au contraire, c'est un lieu qui est plein de dangers qu'en fait, qu'on ne peut pas trop anticiper. On risque d'être contrôlé, on risque d'être enfermé. Enfin, il y a plein de risques que qu'on ne vont pas vivre du tout de la même manière les personnes blanches de classe moyenne ou de classe supérieure qui vont circuler dans cet aéroport. Et donc lui, sur sa compilation, on entend énormément de son alarme, de son qui s'entrechoque. Même le montage, y compris, est fait vraiment de façon très distincte. C'est pas une sorte de long fleuve de musique ambiante. C'est au contraire, c'est morcelé, c'est haché, et on est dans l'inquiétude, quoi. Donc voilà, c'est ça en fait la différence entre l'oralité, enfin la façon d'entendre Blanche et la façon d'entendre d'une personne racisée. Et voilà, ce genre de remise en question, de la manière dont elle l'a théorisée, en fait, c'était extrêmement riche parce qu'elle remet aussi en question de cette façon-là tout un pan de l'histoire de la création de la musique occidentale, qui est encore, y compris dans les musiques expérimentales, beaucoup le fait d'hommes blancs. Et comment est-ce que on intègre d'autres manières de faire de la musique et comment est-ce qu'on les rend aussi audibles, et comment est-ce qu'on leur accorde autant de légitimité qu'aux autres, et comment aussi est-ce qu'on va travailler avec des personnes qui n'ont pas accès à la production musicale. Et je peux donner aussi un autre exemple qui sera peut-être plus parlant en fait que des discours. Il y a une création d'une compositrice blanche allemande qui s'appelle Hildegard Westerkamp, qui a beaucoup travaillé avec Murray Schafer, qui est un compositeur canadien qui a théorisé en tout cas c'est pas lui qui l'a théorisé, mais disons que c'est lui qui a eu le plus de visibilité sur la question de la pollution sonore. Et voilà, et le fait de lui, il voulait créer un design positif du monde, voilà, qui serait composé par des musiciens, etc. Et donc Hildegard Westerkamp, elle a fait une création qui s'appelle Kids Beach Soundbook, qui est une création où elle travaillait avec lui sur cette histoire de pollution sonore, et elle voulait la donner à entendre. Mais elle fait déjà un petit pas de côté, parce que sa création, on entend, en gros, elle fait une captation sur la place de Kids Beach, où on entend en fait des petits mollusques en fait accrochés au... Enfin, en tout cas, c'est ça qu'elle veut entendre. Des petits mollusques accrochés au rocher. Et en fond sonore, il y a la ville de Vancouver, une grosse ville, quoi. Et dans la création, elle se met à jouer en disant « Là, vous ne les entendez pas, les mollusques ? Bah, écoutez, pas de problème, j'enlève la ville. » Et avec un effet, avec un filtre, en fait, elle enlève en fait les très basses fréquences. Et du coup, tous les petits sons saillants, et notamment les sons assez aigus que vont émettre ces petits mollusques, ça fait un bruit de succion, en fait, quand l'eau arrive, etc., on les entend. Et ça fait une sorte de petit crépitement plutôt agréable aux oreilles. Bon. Et après, elle part sur toute une réflexion sur... voilà, ça c'est les sons du rêve, c'est les sons libérateurs, nanani, nanana. Bon, elle part un peu dans un délire comme ça sur les aspects positifs des sons hyper aigus. Et j'ai été vraiment très longtemps fascinée par cette création. Je l'ai écoutée des dizaines de fois. Et aujourd'hui, en fait, j'en suis assez critique. D'une part par le discours très idéalisant qu'elle va produire sur certaines catégories de sons plutôt que d'autres, mais aussi parce que en faisant ça, c'est comme si le studio de production de la création sonore, comme si les appareils d'enregistrement, tout ça était transparent. C'est une sorte de donnée. Avec lequel elle fait, et puis voilà, ah bah miraculeusement, les sons désagréables ont disparu. Sauf que ces technologies-là, ces studios-là, ils sont issus en fait d'un extractivisme dans différentes parties du monde. Ils sont issus du travail en fait de personnes qui vont y compris d'ailleurs mourir dans les mines d'extraction. Ils sont fondés sur des inégalités sociales énormes. toutes les technologies audio qu'on va utiliser, bah, y compris le micro dans lequel je parle actuellement, y compris l'ordinateur ou à travers lequel vous écoutez le son. Tout ça, en fait, est issu, est fondé, en fait, sur des inégalités nord-sud, sur des inégalités sociales. Et c'est notre milieu, en fait. C'est notre milieu. Et on ne peut pas faire sans, on ne peut pas faire comme si ça n'était pas là. Et, mais il faut en avoir conscience. Et il faut intégrer ça, en fait, dans la problématisation. Et pour moi, Hildegard Westerkamp, elle a réussi à faire un pas de côté, déjà, par rapport à Morey Schaeffer, en donnant à entendre, en fait, le fait que le studio va modifier les sons, et en jouant, en fait, avec ça, en direct, avec l'oreille de l'auditrice, de l'auditeur. Mais après, à nous, voilà, quelques années plus tard, de partir de là où elle était et de continuer à avancer, quoi. Et continuer à avancer, pour moi, c'est rendre le studio visible, audible, et c'est l'intégrer, en fait, à l'équation. C'est pas faire comme si on était au-dessus, en dehors, c'est faire avec cette donnée-là aussi, quoi.
We'll be right back.